Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Un seul titre, évidemment la une ce matin, la France a deux étoiles dans les yeux, la France championne du monde. Dans ce journal, le récit d'un match haletant avec Jacques Vendroux en direct depuis Moscou. Un reportage sur les Champs-Élysées envahi par des centaines de milliers de supporters hier soir. Zoom sur un joueur d'exception, déjà salué dans le monde entier, le jeune Kylian Mbappé, qui fait la fierté de toute sa ville, Bondy en Seine-Saint-Denis. La fierté également d'un président. Cyril Graziani viendra nous raconter la folle soirée foot d'Emmanuel Macron. À 8h20 évidemment, la deuxième étoile des Bleus. On y revient, Frédéric, le grand entretien en version extra large avec trois invités.
Un ministre fan de football, Mounir Majoubi, il est secrétaire d'État au numérique. Un finaliste de la Coupe du Monde 2006, Vikash Dorasso, il a porté le maillot bleu. Et une troisième invitée que nous espérons avoir au téléphone. Les portraits des héros de 2018, sont-ils plus forts que ceux de 98? Sont-ils sympas? Peut-on échapper à la récupération politique? Le standard est ouvert. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Au programme également, la sortie de prison aujourd'hui de l'islamiste Jamel Begal et le premier sommet entre le président américain et le président russe.
France Inter.
1998, la génération Black, Blanc, Beurre, génération Zizou. 20 ans plus tard, 2018, une autre génération tout aussi métissée, mais avec une nouvelle devise.
Vive la France et vive la République!
Génération Liberté, Égalité, Fraternité, génération Grisou, du surnom d'Antoine Griezmann que l'on vient d'entendre à l'origine de ce cri de ralliement républicain. C'était hier soir sur le stade Loujniki à Moscou. La France se réveille donc ce matin avec un nouveau slogan, avec dans le ciel une étoile de plus, une étoile bleue. La France championne du monde pour la deuxième fois en 20 ans avec un match plein de buts et de suspense, score final 4-2. On y revient dans un instant, un match étouffant. Alors à 18h53 au coup de sifflet final, c'est tout un pays qui s'est libéré. Reportage sur les Champs-Élysées, Mathilde Dehimi.
Pendant 5 heures, la vague bleue a remonté puis reflué sur les Champs-Élysées, chacun goûtant la joie de l'ivresse.
C'est incroyable, c'est magnifique ce qui se passe, ça.
C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et il n'y a que le foot qui peut faire ça, quoi.
Et c'est surtout la France mélangée, ouais, pleine de couleurs.
Certains ont sorti les vieilles méthodes.
Une sorte de drapeau, confectionné maison, il y a 20 ans. Béret, la baguette dans le sac. J'étais sur les Champs-Élysées il y a 20 ans, avec la même tenue, exactement habillé pareil, superstition jusqu'au bout. C'est trop beau, quoi. Trop beau.
Qu'on vienne de Montbéliard, de Normandie, de Montluçon ou Courcouronne, partout la fierté d'être français comme son voisin.
Personnellement, on n'a pas vécu la Coupe 98. Voilà, 2018, là, c'est communion avec le peuple français. Et franchement, moi, je suis content d'être là.
Franchement, respect les mecs et vive la France.
Palme de la raison la plus logique à Nathan, 5 ans.
Je suis né en France.
C'est pour ça que t'aimes bien la France.
Oui. Et aussi parce qu'ils sont forts.
Palme du supporter le plus atypique à Albert et son bout de bois de 3 mètres de long.
Ça là, c'est le marabout que j'ai préparé pour que le but rentre pas dans les cages du Golovis. J'ai préparé le marabout pendant une semaine pour que le but rentre pas.
Cette victoire fait du bien à la France.
C'est un regain de confiance en chacun. C'est l'idée qu'on peut croire en chacun, qu'on peut se faire confiance mutuellement et qu'on peut avancer tous ensemble.
Et hier soir, beaucoup cherchaient un moyen de sécher le travail pour acclamer les Bleus sur les Champs-Élysées.
Leur reportage sur les Champs-Élysées, donc, de Mathilde Dehimi. À noter quelques notes plus sombres et pas très républicaines dans ce concert de cris et de klaxons, des incidents, un peu partout sur le territoire. Sur les Champs-Élysées d'abord, évacués au gaz lacrymogène par les CRS après minuit, quelques dizaines de casseurs ayant tenté de dévaliser 2 supermarchés et le drugstore Publicis. Un homme a été également hospitalisé dans un état grave après avoir reçu un coup de casque lors d'une rixe en bordure de la Grande Avenue. Incident également entre casseurs et policiers à Lyon et Marseille. À Annecy, un homme d'une 50aine d'années lui est mort en sautant d'un canal, un autre dans un accident de voiture à Saint-Félix dans l'Oise. Enfin, 3 enfants ont été hospitalisés en Meurthe-et-Moselle après avoir été percutés par un motard.
Mais à 2500 km de là, l'humeur était à la fête, rien qu'à la fête, Sébastien.
Oui, bonjour Jacques Vendroux.
Bonjour.
Bonjour, vous en avez vécu, hein, Jacques, d'autres finales et une autre finale, on s'en souvient, en 98, votre voix cassée à la fin du match. Alors hier soir, autre match de légende. Tous les ingrédients étaient présents pour le grand frisson.
Oui, fantastique, incroyable, magique. Une finale
avec évidemment du suspense, de la peur, de la joie, de la peine. La France, vous l'avez dit, gagne 4-2, 90 minutes, avec des histoires de football. Mandzukic, l'attaquant vedette de la Juve, qui marque un but contre son camp pour la Croatie et donc pour la France. Et donc, c'est une première dans la Coupe du Monde. La boulette de Loris, sans conséquence, mais tout le monde l'a vu. Mbappé, le plus jeune joueur après Pelé à marquer en finale de la Coupe du Monde. Modric, qui devient maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde avec la Croatie. Pogba, un but incroyable, décisif. Le troisième, la joie des joueurs français qui restent sur le terrain très longtemps. C'est un conseil de Vicente Lizarazu qui leur a dit, surtout si vous êtes champion du monde, restez sur le terrain longtemps entre vous, parce que ce sont des moments d'exception. Et puis surtout, le président Emmanuel Macron qui, au troisième but marqué par Pogba, qui monte carrément sur le pupitre de la tribune officielle, il manifeste sa joie, il est comme un enfant, il est heureux, il est comme tous les Français. Et je trouve que là aussi, c'est un immense moment de bonheur. Et puis la tribune de presse, je sais pas si vous avez vu la conférence de presse de
la folie, effectivement. Ouais.
La folie, ouais. Voilà, les joueurs qui viennent en conférence de presse et qui envahissent, et les journalistes du monde entier, eh bien, sont stupéfaits.
Alors, quelques mots, Jacques, pour terminer sur le programme des Bleus aujourd'hui. Que font-ils aujourd'hui et quel est le programme de la journée?
Alors, ils se réveillent doucement, parce que je pense qu'ils ont bien profité de leur nuit. Ils vont quitter la Russie aux alentours de 12h30. Ils vont arriver à 15h30 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Direction les Champs-Élysées et après, réception au Palais de l'Élysée. Et surtout, après, soirée privée. Et comme a dit Didier Deschamps, eh bien là, après, chacun fait ce qu'il veut.
Jacques, on compte sur vous quand même pour nous ramener la coupe pendant les studios de France Inter dès demain matin. Bon, eux ne souleveront pas le trophée, cette coupe du Monde. Ils ne seront pas champions pour la première fois de leur histoire. La Croatie s'est donc inclinée face à la France. Hier soir, les Vatreni, comme on les appelle, les joueurs de l'équipe nationale, ont marqué 2 buts, mais c'était insuffisant. Les Français ont été plus forts, mais n'imaginez pas pour autant que les pleurs ont envahi la fan zone du centre-ville de Zagreb. Au coup de sifflet final, au contraire, c'était la fête après la défaite. Farida Noir.
Musique à fond, drapeau croate, brandi fièrement et des sourires, les supporters perdu, mais ils sont heureux.
Pour nous, c'est quand même une victoire parce que c'est la première fois qu'on arrive en finale. Alors cette deuxième place, ça nous suffit. L'or aurait été encore mieux, mais qu'importe.
Gagner la finale, c'était leur rêve, mais ils n'imaginaient même pas arriver jusque-là.
Cette finale, c'était super parce qu'il y a eu plein de buts. Je suis triste que la Croatie ait perdu, mais quand même, ici, l'ambiance est géniale. Nous sommes très contents. Félicitations à la France. Les Français, profitez-en bien.
Les supporters croates sont ce soir de bons perdants.
Je pense qu'ils auraient dû gagner parce que les 2 buts qu'ils ont pris, c'était pas de chance. Mais bon, c'est le sport. Alors oui, je suis un peu triste, mais fier en même temps.
C'est la fin d'une belle aventure qui les a tous rassemblés.
Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais ce que j'ai pu remarquer ces jours-ci, c'est l'esprit d'unité. Tout le monde regardait les matchs, donc on était tous ensemble.
Et ils le seront encore aujourd'hui pour le retour des joueurs qui rentrent sans le titre, mais qui sont pour eux des champions. À Zagreb, Farida Noir pour France Inter.
Allez, on revient à nos Bleus. Et parmi les joueurs à qui la France s'apprête à dérouler le tapis rouge, il y a un nom qui revient sans cesse.
Le jeune Kylian Mbappé.
Oui, élu meilleur joueur du tournoi, meilleur jeune joueur du tournoi 2018 par la FIFA. Deuxième plus jeune buteur de l'histoire, on en parlait en finale de Coupe du Monde après Pelé. Liberté, égalité, Mbappé, le reportage à Moscou de l'un de nos envoyés spéciaux, Sébastien Hazard.
Kylian Mbappé a impressionné toute la planète. Pas seulement hier soir, l'attaquant tricolore termine la compétition avec 4 buts. Et ce n'est pas tout, les images de son rush face à l'Argentine ou de sa talonnade contre la Belgique ont forcé l'admiration. Champion du monde, une étape, affirme Kylian Mbappé, désarmant.
On est fiers. Après, c'est, comme j'ai dit, c'est tout ce que j'ai rêvé. Je suis content et je pense plus que c'est une étape dans une carrière. Ça vous donne envie de vraiment continuer à travailler pour aller encore plus loin. Même si je suis champion du monde, j'ai d'autres choses à faire encore dans le foot et j'ai tellement d'objectifs que je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui.
Il termine aussi meilleur jeune de la compétition. Certains de ses coéquipiers, comme Benjamin Mendy, le voient même remporter très rapidement un autre trophée.
Ballon d'or.
Des mots chuchotés pendant que l'attaquant français répond aux interviews. Le ballon d'or, évidemment, la question va se poser. Surdoué et à l'écoute, selon Didier Deschamps, le sélectionneur.
Il est intelligent, il est à l'écoute. Je lui dis pas que des choses gentilles, même s'il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Mais j'ai dit, profite, t'as 19 ans. Être champion du monde à 19 ans, il est censé l'être peut-être plusieurs fois.
Prêt tout de même à faire la fête, Kylian Mbappé a profité notamment de ce défilé sur les Champs-Élysées qui se profile.
Let's go, je suis prêt moi.
Moscou, Sébastien Azat, France Inter.
Et même Pelé n'en revient pas du talent de ce jeune homme de 19 ans. Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir rechausser mes crampons, a tweeté la star brésilienne. Kylian Mbappé, on le sait, est né en Seine-Saint-Denis. C'est à Bondy que le jeune prodige a fait ses classes. Et la mère de Bondy elle-même n'hésitait pas hier soir à en faire un exemple pour toute sa ville. Écoutez Sylvine Thomassin au micro d'Adrien Beria.
Il y a une osmose complète en fait, une harmonie complète entre ce que vit cette ville, ce qu'elle est et ce qu'est Kylian. Les jeunes dont on ne parle jamais de nos banlieues, on parle toujours des quelques herbes folles qui nous prennent beaucoup d'énergie, mais on ne parle jamais de tous ceux-là qui sont juste magnifiques, qui réussissent leur bac, leurs études, qui sont plus entrepreneurs que partout ailleurs dans la région Île-de-France. Cette jeunesse talentueuse, remuante certes, effervescente, mais talentueuse. Donc si au moins le temps de la Coupe du Monde et plus longtemps, la France pouvait avoir un regard de fierté sur ses banlieues, eh bien moi je dirais que Kylian nous aura apporté ça en plus.
Voilà, Kylian Mbappé qui fait la fierté de la ville de Bondy, mais plus largement, les Bleus font la fierté de tout un pays. Et ça, un homme politique ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Le président français Emmanuel Macron s'est mué hier soir à Moscou en premier de cordée des supporters.
Et il n'a pas boudé son plaisir transcendé, comme le montre cette photo qui a fait le tour du monde et de nombreuses unes de la presse internationale. But de l'équipe de France, Emmanuel Macron bondit de son fauteuil sans aucune retenue, les bras levés, debout devant Vladimir Poutine, stoïque. Sous la pluie battante, au moment de la remise de la coupe, le chef de l'État embrasse cette Coupe du Monde. Il a mouillé le costume, pas le maillot, et dans le vestiaire, il harangue les joueurs. Tendez bien l'oreille.
Vous avez mouillé le maillot, vous êtes fiers du pays, vous avez porté tout le pays. Et donc maintenant, je vous le dis, plus jamais les mêmes.
Cet exemple, vous allez me le porter. Emmanuel Macron veut faire des Bleus des ambassadeurs 20 ans après la génération Black, Blanc, Beurre, la génération Vive la France et Vive la République. Message porté par les 23 Bleus tout au long de cette Coupe du Monde. L'entendre dans un vestiaire, c'est peu courant. L'Élysée ne va pas se priver d'en profiter car ces messages républicains seront plus facilement entendus par la jeunesse française, surtout s'ils sont entonnés par des idoles nommées Mbappé, Griezmann ou Pogba.
Cyril Graziani, merci du service politique de France Inter. Et puis pour clore cette page spécial mondial, un pur moment d'émotion que l'on doit à une supportrice au délicieux accent british, Jane Birkin. Elle était hier soir sur la scène des Francofolies à La Rochelle pour célébrer à sa manière la victoire française.
Ce soir n'est pas un soir comme tous les soirs. Ce soir, après cette glorieuse journée, c'est un moment magique. Et vous êtes là, et nous sommes ici. Alors, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Voilà l'hymne national fredonné par Jane Birkin. Jane Birkin et toute une salle. Un dernier appel pour terminer l'atterrissage de l'avion des Bleus. Je vous le rappelle, c'est à 15h55 à Roissy.
8h13 sur Inter, la suite du journal Sébastien Logeni. Et dans le reste de l'actualité, la sortie de prison de l'islamiste Jamel Begal.
Le mentor de Chérif Kouachi et Amélie Koulibaly, les auteurs des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, a fini de purger sa peine de 10 ans de prison pour avoir tenté de faire s'évader un ancien du GIA, le groupe islamique armé. La France n'entend pas le garder sur son territoire. Paris dit avoir obtenu l'accord d'Alger pour extrader Jamel Begal, mais à ce jour, rien n'est encore fait. À Alger, les précisions de Leïla Berato.
Originaire de Borj-Bouareridge, Jamel Begal a quitté l'Algérie au milieu des années 80. Ici, il n'est connu ni comme cadre de groupe terroriste, ni comme un cadre de l'ex-parti politique du Front islamique du Salut. Si Paris affirme qu'elle a l'accord de l'Algérie pour l'extrader dès sa libération et que l'homme serait condamné en Algérie à une peine de 20 ans de prison pour ses liens avec le GIA, Alger n'a pour le moment fait aucun commentaire. L'Algérie a accueilli d'anciens prisonniers de Guantanamo qui ont dû passer une année en résidence surveillée à leur retour, mais il y a aussi beaucoup d'anciens militants du Front islamique du Salut, réfugiés à l'étranger dans les années 90, qui sont revenus volontairement. Ceux qui n'étaient pas mis en cause par la justice algérienne ont pu s'installer librement. Ceux qui étaient mis en cause ont pu bénéficier des décisions de la Charte de réconciliation nationale. Ce texte permet aux terroristes repentis qui ne sont pas coupables de meurtre de se réinstaller dans la société avec interdiction de reprendre toute activité politique. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Et puis à l'étranger, encore un sommet Trump-Poutine très attendu aujourd'hui à Helsinki en Finlande. Premier sommet officiel entre les deux hommes. Que vont-ils se dire? Les dossiers chauds entre les deux pays ne manquent pas. Ukraine, Syrie, accusation d'ingérence russe dans l'élection américaine à Washington. Ce tête-à-tête donne des sueurs froides à l'administration américaine. Écoutez, Philippe Lecor, il est chercheur en relations internationales à la Harvard Kennedy School de Boston.
Ce qui fait peur un petit peu aux gens, c'est qu'ils veulent rencontrer Poutine en tête-à-tête. Donc ça terrifie les gens du département d'État et du Pentagone. Il y a quand même des conflits un peu partout dans le monde entre la Russie et les États-Unis, notamment au Moyen-Orient. Trump veut faire des coups. Vous savez, il a fait la rencontre avec Kim Jong-un à Singapour. Maintenant, il fait la rencontre avec Poutine. Il veut montrer qu'il est différent, qu'il fait des deals, qu'il est capable de faire un deal avec le président russe. Et repartir du bon pied avec ce pays qui a longtemps été dénoncé comme le pire ennemi, celui qui interfère dans les élections américaines, etc. Et si ça se passe trop bien, d'une certaine manière, il pourra être accusé d'avoir de complaisance vis-à-vis de la Russie, du président russe. Et c'est vrai que ça inquiète les gens, si vous voulez, les stratèges à Washington, puisqu'ils perçoivent quand même la Russie comme un pays, comme ayant un régime à l'encontre des intérêts américains.
Philippe Lecor, propos recueilli par Christian Chesneau. Un dernier appel de sport pour terminer. L'ancien numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'est offert un 4e trophée à Wimbledon, son premier grand chelem depuis plus de 2 ans. Et puis maintenant que le mondial est terminé, on va peut-être enfin pouvoir parler du Tour de France, avec hier la 9e étape gagnée par l'Allemand John Degenkolb. 9e tour marqué par beaucoup de chutes, notamment Alexis Vuillermoz. Aujourd'hui, première journée de repos pour le peloton, c'est pas de bol.
Ouais, on espère avoir autant d'émotions qu'à cette Coupe du Monde. Sébastien Logeni pour le journal.